Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Lucille Bess. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison 2020-2021 de Microcité, votre émission d'actu et de débat hebdomadaire. Avant de commencer, une petite pensée pour nos prédécesseurs que vous pouvez retrouver en ce moment dans toutes les bonnes radios de France et qui, on l'espère, écoutent l'émission aujourd'hui. Et il y en a un qui écoute l'émission, on en est sûr, c'est Corentin. C'est lui qui devait présenter cette première édition. Malheureusement, il est en quarantaine pour quelques jours, on le salue. Au sommaire, cette semaine, le congé paternité qui va passer de 14 à 28 jours le 1er juillet 2021. Qu'en pensent les parents et les assos qui militent en ce sens depuis des années? On en parlera dans le dossier du jour avec Alizée Cheboub et Sarah Montaudon, directrice de l'association départementale des familles de l'Isère. Et puis dans cette édition, l'inquiétude des éleveurs face au réchauffement climatique. Notre reporter Lou Momej est allé à la rencontre des agriculteurs pour en savoir plus. On la retrouve en fin d'émission. Installez-vous confortablement, Microcité édition 2020-2021, c'est parti! Il est 16h31, c'est l'heure du journal avec Christelle Delfos. Bonjour Christelle.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Emmanuel Macron passe à l'offensive contre l'islam radical. Ce midi, le président a présenté son projet de loi contre les séparatismes religieux. Donald Trump a été testé positif au Covid-19. Sa campagne se trouve stoppée net à 32 jours de l'élection présidentielle. Et puis les restaurateurs de toute la France font du bruit cet après-midi. Ils ne veulent pas mourir en silence, disent-ils, tandis qu'une course contre la montre se joue dans plusieurs métropoles françaises pour ne pas passer en zone d'alerte maximale. Et puis en fin de journal, on entendra David Dufresne. Le journaliste était hier à Grenoble à l'occasion de la sortie de son film « Un pays qui se tient sage ». S'attaquer au séparatisme sans tomber dans les amalgames, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Le président a présenté ce midi son projet de loi contre les séparatismes religieux qui doit être discuté en Conseil des ministres le 9 décembre. Parmi les annonces faites, l'instruction à l'école obligatoire dès 3 ans, le renforcement du contrôle des écoles hors contrat, la fin de la formation des imams à l'étranger et la dissolution des associations facilitées. La nouvelle a secoué l'Amérique. Donald Trump est positif au coronavirus. Le président américain l'a annoncé ce matin dans un tweet. Lui et sa femme Melania, qui est aussi positive, sont donc en quarantaine à la Maison Blanche. Son meeting qui devait se tenir en Floride aujourd'hui a dû être annulé. Alors à un mois de l'élection présidentielle, ce retournement de situation pourrait-il peser dans la campagne? Corentin Bémol.
Ce qui est sûr, c'est que cette situation ne va pas jouer en la faveur de Donald Trump. La campagne du candidat républicain est pour l'instant mise entre parenthèses, une parenthèse qui tombe au pire moment et qui risque de lui faire rater l'October Surprise, une période décisive dans les élections américaines qui peut faire basculer les intentions de vote. Une possible dégradation de la santé du président pourrait également avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de cette élection. En effet, si le président n'est plus apte à exercer ses fonctions, c'est le vice-président qui doit prendre les rênes et seul le Congrès peut avoir le pouvoir de repousser le suffrage. Un coup dur donc pour Donald Trump qui s'est maintes fois affiché en sous-estimant le virus. Il a plusieurs fois exprimé des doutes sur l'efficacité du masque et en avait fait un argument politique contre son concurrent Joe Biden qui l'accusait de trop se protéger.
Le vice-président Mike Pence a quant à lui été testé négatif quelques heures après le résultat de Donald Trump. En France, l'épidémie continue de prendre de l'ampleur. Le conseil scientifique a appelé ce matin les Français à limiter leurs contacts pour éviter des mesures plus radicales. Hier, le Premier ministre a posé un ultimatum aux maires de plusieurs métropoles classées en zone d'alerte renforcée. Paris, Lille, Lyon et Grenoble ont donc 10 jours pour inverser la tendance. Sinon, elles pourraient voir à leur tour les bars et restaurants fermés. En effet, depuis lundi, les bars ont été contraints de fermer à 22h, on le rappelle, dans ces zones. À Grenoble, cette mesure qui vise à lutter contre la propagation du Covid-19 ne passe décidément pas, Shannon Marini.
C'est l'incompréhension pour les patrons de bars comme Mathieu, co-gérant du Subway.
Bon, on les connaît, nos jeunes. Ils vont se retrouver à 25 dans un studio et ça sera 10 fois pire que s'ils étaient ici, régulés par nous, dont c'est le métier.
D'ailleurs, les amis de Juliane, à la terrasse de la Natte, ne le cachent pas. À 22h, ils se retrouveront chez eux pour continuer la soirée. Cet étudiant en architecture regrette cette mesure.
C'est triste pour ce que ça représente, à savoir la fin des sorties, la fin de... peu de ce côté où on peut décompresser des cours, parce qu'il y a une grande pression qui est liée aux cours, au Covid, à tout ça. Le fait de nous enlever des libertés de pouvoir sortir, profiter, se rencontrer, c'est quelque chose d'assez dommage et je pense traumatisant pour certains d'entre nous.
Une chose est sûre, la fermeture anticipée des bars aura de lourdes conséquences économiques. Aurélie, patronne du bar Le Gaudi.
Je pense que l'impact, il est à peu près de 30 voire 40% en termes de chiffres. Et si on doit refermer complètement, ben on retombe dans le scénario du mois de mars, quoi, avec un chiffre d'affaires à zéro.
Pour rassurer les bars, le gouvernement a annoncé l'exonération des cotisations sociales pour ceux ayant perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.
Et dès lundi, Grenoble pourrait passer en zone d'alerte maximale.
Et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge, Cristal.
Oui, le passage de la tempête Alex entraîne de fortes pluies et risque d'inondations. Plus aucun train ne circule dans la région. Les centres commerciaux ont dû fermer à 14h cet après-midi et les établissements scolaires étaient, eux, fermés pour la journée. En Bretagne, la tempête n'a fait aucune victime ni blessée, mais a privé jusqu'à 100 000 habitants d'électricité. À la mi-journée, 60 000 personnes n'avaient toujours pas de courant. Les syndicats hospitaliers appellent à une journée de mobilisation et de grève nationale le 15 octobre. Ils réclament notamment des embauches massives et immédiates, une revalorisation des salaires de 300 euros par mois minimum et l'ouverture massive de lits. Les collectifs préviennent que la crise sanitaire pourrait entraîner l'écroulement du système de santé et d'action sociale. Des sans-papiers sont en marche vers Paris. Partis des quatre coins de la France à l'appel de 15 collectifs, ils ont pour objectif de s'unir et rallier la capitale à pied. Une manifestation y est prévue le 17 octobre devant l'Élysée. Mardi, le départ était donné à Grenoble. Colline Mollard était sur place.
7 heures du matin, mardi, devant la gare de Grenoble, ils étaient une centaine réunis pour le départ de la marche. Leurs revendications, des papiers et un logement pour tous, mais aussi la fermeture des centres de rétention administrative, comme l'explique Jean-François, militant en faveur des immigrés.
Dans ces centres de rétention, c'est des prisons qui ne disent pas leur nom et les conditions de vie sont très mauvaises, quoi.
Oussama Elbarve représente le collectif des sans-papiers de l'Isère. Il est arrivé d'Algérie il y a 8 ans et n'a toujours pas de titre de séjour.
J'ai 33 ans, sans aucun droit, ni logement, ni travail, ni rien. On a marre de la précarité administrative. On vit dans le stress tout le temps, dans l'angoisse. On n'est pas des criminels, on est juste des êtres humains comme les autres. On va crier à haute voix pour envoyer un message.
Pour Ali Matlouti, arrivé de Tunisie avec sa famille en 2018, la crise sanitaire a empiré la situation.
Dès que le confinement a commencé, je n'ai pas travaillé avant. J'essaie de travailler dans le marché. Je touche entre 10 et 30 euros par jour. C'est dur pour moi et pour toutes les sans-papiers.
Le groupe a passé la première nuit dans un gymnase à Rives, à 30 km de là. Il doit arriver à Lyon aujourd'hui et se réunir avec les marcheurs de Montpellier et de Marseille. Dès demain, ils repartiront pour 2 semaines de marche en direction de l'Élysée.
Et les tensions continuent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Les deux pays se disputent depuis dimanche la région du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, les frappes azerbaïdjanaises continuent de tomber sur la principale ville de la région séparatiste. Le gouvernement arménien s'était pourtant montré ouvert à un cessez-le-feu ce matin. En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian met en garde contre le risque d'une extension du conflit à l'échelle internationale. Depuis dimanche, ces combats ont fait 190 morts, dont 32 civils. David Dufresne est journaliste. Il recense les violences policières sur son compte Twitter Allo Place Beauvau. Mercredi sortait en salle son documentaire Un pays qui se tient sage. Il met sur grand écran les violences policières qui ont tourné sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années. Un journalisme engagé qu'assume David Dufresne et Taha Bouaf, journaliste qui a également participé au film. Ils ont répondu à notre micro.
Là, l'idée de Un pays qui se tient sage, c'est d'apporter des éléments à un débat qui a déjà lieu. Il y a un parti pris, je l'assume. Je considère qu'il y a une honnêteté intellectuelle. Et à part en temps de Covid, je ne suis jamais masqué. Enfin voilà, les gens à qui je m'adresse savent qui je suis, d'où je viens et comment j'essaie de... Voilà.
La question des violences policières, elle a acquis aujourd'hui une centralité. Et les uns et les autres ne peuvent plus maintenir le statu quo. Il faut se positionner.
Romeo Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan, a été sacré meilleur joueur de la saison 2019-2020 en Ligue Europa. Le Belge de 27 ans a inscrit 34 buts cette année, toutes compétitions confondues. Et en Ligue Europa, il reste sur une série inédite de 11 matchs marquants consécutifs.
C'est la fin de ce journal. On se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. À tout à l'heure, Cristal.
À tout à l'heure.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Et dans un instant, on retrouve Alizé Cheboub et son invité en studio pour le dossier de la semaine consacré à l'allongement du congé paternité. Mais avant ça, c'est le moment de faire une pause musicale.
C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli. Comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise. T'es conne si tu restes en silence. T'es folle si tu prends la parole. Mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est ton enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, sur ses moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise. T'es conne si tu restes en silence. T'es folle si tu prends la parole. Mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux.
C'était T'es belle de Cœur de Pirate, sorti hier. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 16h42 et c'est l'heure du dossier d'Alizé Cheboub.
Le dossier de la semaine.
Un congé paternité deux fois plus long, c'est ce qu'a promis le gouvernement après avoir reçu le rapport d'une commission d'experts sur les 1000 premiers jours de l'enfant. À partir de juillet 2021, les conjoints pourront bénéficier non plus de 14, mais de 28 jours de congé. Une avancée saluée, mais parfois jugée insuffisante, sur laquelle se penchent Alizé Cheboub et son invité du jour.
Et oui, les pères, les associations, les féministes le réclamaient depuis des années. L'allongement du congé paternité a été annoncé la semaine dernière. Alors pourquoi maintenant? Quels en sont les principaux enjeux pour les enfants et pour les parents? Quelles sont les modalités? On essaiera de répondre à toutes ces questions dans notre dossier. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sarah Montaudon, directrice de l'UDAF, donc de l'Union départementale des associations familiales de l'Isère. Donc bonjour Sarah Montaudon.
Bonjour.
Alors avant de vous donner la parole, un rapide point historique. Il faut savoir que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de son nom complet, n'est mis en place en France qu'en 2002. C'est Ségolène Royal qui porte alors le projet sous le gouvernement Jospin. Selon les prévisions, on s'attend alors à voir environ 40% des papas l'utiliser, mais surprise, plus de 60% d'entre eux décident d'en profiter. Les pères peuvent alors poser 11 jours. Ils s'ajoutent aux 3 jours de congé de naissance déjà en place depuis 1946. Depuis, ça n'avait pas beaucoup changé jusqu'à l'annonce du président Emmanuel Macron mercredi dernier.
Elle est simple, nous allons porter le congé paternité à un mois.
Alors Sarah Montaudon, j'aimerais tout d'abord savoir quelle a été votre réaction en entendant cette annonce.
Eh bien, moi j'étais satisfaite, effectivement d'abord surprise par cette annonce qui est assez rapide à la suite donc, du rapport sur les 1000 jours. Voilà, on ne s'attendait pas à ça, donc c'est une bonne chose, une très bonne nouvelle pour les conjoints, voilà, qui pourront prendre effectivement 28 jours de congé.
Alors, est-ce qu'il y avait déjà eu des tentatives d'amélioration depuis 2002, puisque au début la France était à la pointe, mais ensuite ça s'est un peu dégradé?
Oui, alors il faut savoir qu'à partir de 2004, je crois, il y a eu le 2014, pardon, la France a mis en place l'obligation du partage du congé parental pour pouvoir aussi, obliger le conjoint à s'occuper des enfants. La rémunération de ce congé, il n'est pas pris par les pères ou les conjoints, et donc il était quand même plus facile d'augmenter le congé paternité, effectivement,
Parce qu'effectivement, on parle de congé paternité, mais c'est important d'expliquer qu'en fait, ça concerne pas seulement les papas traditionnels, on peut dire.
Non, donc, tout le monde, en fait. Il faut surtout parler de conjoint plutôt que de papa, parce qu'il y a aussi des mamans qui peuvent être concernées, puisque le congé paternité, il est pour le conjoint pacsé ou marié.
D'accord. Donc, votre association avait milité pour ce congé en signant une lettre ouverte en 2018. Est-ce que, à votre échelle, vous aviez ressenti ce besoin qu'avaient les pères de pouvoir bénéficier d'un congé paternité plus long ?
Alors, la position de l'UNAF, c'est effectivement... Alors, c'est très compliqué parce que tout ça, il faut le voir en globalité avec l'arrivée de l'enfant et l'égalité homme-femme, en fait, qu'il y a derrière. Donc, on va dire que pour l'UNAF, ce qui était demandé, c'était effectivement une implication plus importante des pères à la naissance de l'enfant pour qu'il y ait un rééquilibrage aussi des tâches familiales, qu'il y ait une égalité homme-femme au niveau des salaires. Parce que pourquoi le père ne prend pas le congé parental ? Parce qu'effectivement, il est tellement mal rémunéré qu'il ne va pas s'arrêter de travailler pour gagner moins de 400 euros par mois. Donc c'était vraiment essayer, c'est vraiment un projet global en fait de la naissance de l'enfant et des premiers mois de vie de l'enfant qu'il faut revoir.
Et est-ce que justement vous avez eu des retours, peut-être des histoires de pères de parents qui expliquaient un peu comment est-ce qu'ils arrivaient malgré tout à s'organiser ?
Alors, moi, la spécificité, alors je ne suis pas directrice de l'UDAF, mais présidente, je vais quand même corriger. Et en fait, moi, je fais partie de l'association Jumeaux et Plus, donc qui est là pour aider les parents de jumeaux. Donc moi, j'ai beaucoup de retours sur les parents de jumeaux. C'est aussi valable pour un enfant, de toute façon. C'est-à-dire que le congé paternité étant tellement court... Les pères, s'ils le prennent, enfin de toute façon, le prennent dans la majorité des cas, et derrière ils vont cumuler avec des RTT ou prendre des congés pour pouvoir rester le plus longtemps possible avec l'enfant et aider la maman. S'il y a des grands devant, pouvoir gérer les grands, enfin voilà, c'est tout un schéma familial qu'il faut prendre en compte en fait.
Alors justement, on a pu rencontrer un papa qui témoigne de son expérience. Donc Simon Berthier a en effet pris un mois de congé après la naissance de ses deux filles, aujourd'hui âgées de 1 et de 3 ans.
Moi, je sais que pour moi, retourner au travail au bout des deux semaines légales, ça aurait été strictement impossible. Pour moi, c'était très important parce que c'est vraiment les premiers moments. C'est là qu'on découvre notre enfant. Et notre femme, elle a déjà 9 mois d'avance parce que ça fait 9 mois qu'elle l'a dans le ventre. Et moi, je découvre vraiment le jour de la naissance. Donc, ça permet de s'organiser au niveau de la vie parce que c'est quand même un beau bouleversement. Surtout qu'on en avait déjà qu'on a toujours, on a une plus grande qui prend beaucoup de temps, beaucoup de place. Et puis, il faut aussi expliquer à la grande qu'elle n'est plus toute seule, que la petite ne va pas lui prendre sa place, qu'on est une famille, maintenant on est quatre et qu'il faut partager les choses. Mais moi, si ça peut être allongé à 9 semaines ou 6 mois, très bien, tant mieux.
Alors justement, donc lui, il trouve que c'est bien, mais que ce n'est pas assez. Où se positionne un peu l'UNAF par rapport à ça ?
Alors l'UNAF, elle est sur la même lignée que le rapport des 1000 jours, c'est-à-dire au moins arriver jusqu'à 9 semaines de congé paternité, c'est-à-dire presque 3 mois en fait de congé pour le père ou le conjoint. Ce qui serait vraiment un bon timing pour pouvoir justement mettre en place la vie familiale, que le père puisse profiter de l'enfant ou de ses enfants. Et puis gérer le quotidien, que la maman se remette aussi de l'accouchement, qu'elle mette en place tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une vie de famille équilibrée, on va dire.
D'accord. Et donc, dans ce rapport aussi, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait aussi 7 jours qui devront être obligatoirement posés par le père. Quels sont un peu les enjeux finalement ? Pourquoi cette obligation ?
Eh bien, parce que actuellement, en fait, si on regarde les chiffres, on voit que 100% des papas ne prennent pas le congé paternité. Ils sont que 7 sur 10 à le prendre. Donc, voilà, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils ne peuvent pas au niveau de l'entreprise. Donc là, on oblige les pères, effectivement, à prendre. Enfin, on oblige les entreprises à ce que le père puisse prendre 7 jours de congé paternité. Voilà, et donc je me rappelle plus de votre question, on va y retourner.
C'était un peu les enjeux de l'obligation, justement.
Eh bien, l'enjeu, c'est que, voilà, pour les petites entreprises, les PME, les artisans, ça va être quand même, enfin, je pense que ça va être compliqué pour eux, parce que, bah, il faut qu'ils anticipent, effectivement, les 7 jours d'absence d'un collègue. Donc, quand on sait que la réforme, logiquement, devrait être appliquée à partir du 1er juillet 2021, ça laisse peu de temps pour réorganiser, entre guillemets, la vie de l'entreprise quand il y aura des congés paternité qui seront pris.
Et justement, donc, avant, vous parliez de ce rapport des 1000 jours. Alors, Mathilde Cariou a pu justement entrer en contact avec des personnes qui ont participé en fait à la commission, donc qui a été chargée de cette étude. Donc, on écoute ça tout de suite.
Nommée en septembre 2019 par le président de la République, la commission des 1000 premiers jours de l'enfant a travaillé pendant un an sur la période allant du 4e mois de grossesse au 2e anniversaire. Isabelle Filiozza est vice-présidente de cette commission. Elle explique l'importance des premiers mois sur le développement du bébé.
Dans cette période où le cerveau, le corps, les tissus sont en construction, il y a forcément une incidence beaucoup plus importante de tous les facteurs de risque.
Facteurs environnementaux, sociaux, psychologiques, le nourrisson a alors besoin de l'attention de ses deux parents.
C'est une période extrêmement à risque parce que c'est une période vulnérable, mais c'est en même temps une fenêtre d'opportunité pour le futur.
Les travaux ont mené à la formulation de plusieurs recommandations, la création d'une maison des 1000 jours qui regrouperait divers professionnels de la petite enfance, la prise en charge de la dépression postpartum, mais aussi et surtout la prolongation du congé paternité à 9 semaines, un conseil que le gouvernement a décidé de revoir à la baisse.
Quand même, 28 jours, c'est le tout début, on a à peine le temps de se coordonner avec l'enfant. Plus on passe de temps avec le tout petit, mieux on arrive à le comprendre. Le papa risque d'être privé de moments qui sont où l'enfant commence à sourire davantage, être beaucoup plus interactif, à dormir moins, à être plus dans la relation. Et donc, c'est dommage de s'arrêter si vite.
Cependant, la commission ne baisse pas les bras et rappelle que le gouvernement n'a pas encore statué au sujet du congé parental.
Alors justement, quand vous entendez donc ces mots, notamment sur d'autres propositions, hein, qui sont des maisons de l'enfance ou le congé parental, est-ce que l'UNAF a prévu aussi d'essayer de se mobiliser pour justement faire avancer encore plus sur ce genre de sujet ?
Bah, l'UNAF, de toute façon, elle reste vigilante à tout ce qui est suivi par le gouvernement et notamment après le rapport des 1000 jours. Donc, de toute façon, voilà, ils vont réfléchir, faire des propositions et soutenir les familles en ce sens.
Et quel type, effectivement, de soutien ça peut être
Alors là, vous me posez une colle, je vais être honnête. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il faut vraiment revoir ce congé. Enfin, voilà, le congé paternité, c'est une chose, mais effectivement, il y a aussi le partage du congé parental. Actuellement, les mamans, enfin, on va parler des mamans parce que c'est principalement elles qui le prennent les deux premières années de vie de l'enfant. Et la troisième année, le conjoint ne le prenant pas, eh bien, on va se retrouver avec des mamans qui, soit vont démissionner pour pouvoir s'occuper de leur enfant jusqu'à la rentrée à l'école. Soit retourner au travail, mais il faut trouver un mode de garde. En fonction de là où on habite, ce n'est pas forcément simple. Enfin, voilà, il y a plein de questions autour des trois premières années de l'enfant, en fait. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais...
Non, mais c'est très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, une précision notamment sur...
Alors après, si je peux me permettre de prêcher un peu par la paroisse des familles de multiples, donc l'UNAF, voilà, on est ravis d'avoir ces 28 jours de congé paternité. Après, il faut penser que pour les multiples, eh ben, c'est pas multiplié par deux, ni par trois par deux pour les jumeaux ou trois par les triplés. On va arriver à 35 jours. Pour les jumeaux, au lieu de 28 pour un enfant. ce qui n'est pas énorme en fait. Donc il y a encore un peu de travail à faire et au sein de l'UNAF, on sera aussi vigilant à ça.
Merci beaucoup Sarah Montaudon, je suis désolée de vous couper, on va devoir clôturer ce dossier. Je le rappelle, vous êtes présidente en effet, non pas directrice de l'Union départementale des associations familiales de l'Isère. Donc pour vous, hein, l'allongement du congé paternité, je vais y arriver. C'est une première étape hein, qu'il va maintenant falloir assortir probablement d'une réforme du congé parental, mieux le rémunérer, etc. Et merci également à Alizé pour ce dossier.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
On est encore ensemble pour quelques minutes et on va parler des éleveurs et des agriculteurs qui sont des témoins directs du changement climatique. Il a un impact de plus en plus marqué, notamment sur les récoltes. Lou Momège a enfilé ses bottes et est allé à la rencontre des agriculteurs isérois.
En Isère, la moitié des exploitants agricoles sont des éleveurs. Nombreux ont subi la sécheresse cet été. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique, mais pas que. Avec son œil de chercheur en écologie végétale, Grégory Loukougaraï nous éclaire sur ce phénomène.
Ce changement climatique, en fait, il a deux composantes qui sont importantes pour les pratiques agricoles. C'est à la fois le réchauffement global moyen, c'est-à-dire une augmentation constante des températures. Et la deuxième composante, en fait, de ce changement climatique, c'est la recrudescence des aléas climatiques. C'est des phénomènes climatiques extrêmes qui sont difficilement prévisibles et qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. L'exemple le plus commun que vous connaissez tous, c'est les sécheresses. Concrètement, pour l'élevage aujourd'hui en montagne, ce sont plus ces aléas qui posent un problème.
Ça, c'est l'analyse scientifique. Côté pratique, impossible pour les éleveurs de remettre en question le réchauffement climatique.
Bah nous, on le ressent, on le voit au niveau de la végétation qui change.
Alain, tête de troupeau de 35 vaches laitières dans les hauteurs du Vercors.
On a des plantes, enfin les prairies sont de plus en plus sollicitées et du coup on a une modification de la flore. Elle est moins variée, donc du coup ça peut avoir un impact. Et puis quand il fait bien chaud, les bêtes elles souffrent un peu plus, donc du coup elles produisent moins aussi. Quoi. Elles boivent plus, après on a moins de pâturage à proximité, donc du coup on les fait marcher plus.
Sous leurs airs bovins, les vaches aussi souffrent de la chaleur. Ludovic est fermier de père en fils et ça, il l'a bien remarqué.
Changement climatique, j'y croyais pas jusqu'à 4-5 ans et là je vois que ça commence à se réchauffer, l'été c'est plus facile pour nous pour faire les fourrages. Mais par contre après on a des grosses transitions comme on a vécu la semaine dernière où on est passé de 15 degrés le matin, 25 l'après-midi et le lendemain on a quand même, on est à 800 d'altitude, on avait 2 degrés.
Et ça c'est problématique ?
Sur les animaux oui parce qu'ils sont comme nous et... Si on est dans des bonnes conditions physiques, on évolue. S'il y a des grosses oscillations, ça joue sur les conditions.
Malgré tout, Ludovic reste optimiste. Il en faudra plus pour lui faire abandonner le métier.
C'est dans la peau, on a essayé de faire autre chose. Et en fait, l'appel de la nature fait que... fait qu'on y retournait.
Les éleveurs restent très touchés par le réchauffement climatique. Un impact d'autant plus palpable en montagne. Depuis les années 80, la température globale des Alpes a augmenté de 2 degrés. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
Merci Lou Momège. Il est 16h58, l'heure du rappel des titres avec Christelle Delfos.
Emmanuel Macron est passé à l'offensive contre l'islam radical. Il a présenté ce midi un projet de loi contre les séparatismes religieux qui doit être examiné en Conseil des ministres le 9 décembre. Parmi les annonces, la fin de l'instruction scolaire à domicile, la fin des formations également la fin de la formation des imams à l'étranger et la dissolution des associations facilitées. La tempête Alex s'abat en ce moment sur le sud de la France. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge. Plusieurs routes sont coupées et les habitants sont appelés à rester chez eux. Les intempéries devraient s'intensifier et se poursuivre dans la soirée. Une grève nationale du personnel hospitalier est prévue jeudi 15 octobre. Les syndicats appellent à une journée de mobilisation. Ils réclament notamment des embauches massives et immédiates, une revalorisation des salaires de 300 euros par mois minimum et l'ouverture massive des lits.
Merci. Merci Christelle. On se dit à la semaine prochaine. Et il est bientôt 17h, c'est déjà la fin de Microcité. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition. Merci à Louis Oscovin pour la technique et à toute l'équipe radio de l'EJDG. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampus.fr et sur les réseaux sociaux @microcité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Campus 90.8.